Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Avec MCM.
Et le journal de la mi-journée avec Antoine Samoyau, bonjour. Ben Antoine, il est pas là Antoine.
Bon, comment ça?
Allô Antoine, bonjour.
C'est reparti. Bonjour Moretto, bonjour à tous. Le procès de l'affaire du CED a finalement bien débuté ce matin au tribunal correctionnel de Papeete. Gaston Flos et 6 autres prévenus seront jugés pendant 5 jours de procès dans l'affaire des espions de la présidence. Un dossier qui nous ramène à la fin des années 90 en Polynésie. Le MEDEF Polynésie qui reste attentif aux problèmes politiques. Vous entendrez dans ce journal le patron des patrons Olivier Cressman. 2 mois après sa lettre ouverte contre une nouvelle instabilité, il estime que les élus se savent maintenant observer. Ce soir s'ouvre enfin le cycle de projection et de débat L'Envers du Monde. On débute par la pollution d'Internet. C'est à 18h à l'ICEP. A tout de suite.
Et on démarre ce journal avec l'affaire du SED qui a finalement bien débuté ce matin au tribunal. Et
effectivement, la matinée a été agitée au palais de justice de Papeete. Gaston Flos, son ancien directeur de cabinet Jean Prunet, l'ex-agent de la DGSE André Huel et plusieurs anciens agents du fameux SED avaient rendez-vous à la barre du tribunal. Le SED, c'est le service études et documentation, un service composé d'une 20aine d'agents créé en 1997 sous la présidence de Gaston Flos et dont les missions étaient assez spéciales. Il s'agissait en effet de missions d'espionnage, de filature ou encore de photographie de personnalités politiques ou de journalistes, principalement des opposants à Gaston Flos. Mais ce qui intéressait surtout les prévenus et le tribunal ce matin, ce sont les demandes de nullité de la procédure déposée par l'avocat de Gaston Flos, maître François Quinquis. Comme Radio 1 l'a révélé durant ce week-end, l'avocat avait demandé la nullité de l'ordonnance de renvoi, comme il l'avait obtenue pour l'affaire Haddad Flos. Concrètement, maître Quinquis estime que cette ordonnance de renvoi vise des faits commis entre 97 et 2000. Alors même que Gaston Flos n'a été mis en examen que pour la période de 2002 à 2004. Je vous propose d'écouter l'avocat de Gaston Flos interrogé vendredi dernier sur cette procédure.
Effectivement, bis repetita. Il me semble que l'ordonnance de renvoi est entachée de nullité, ou en tout cas n'est pas conforme aux dispositions du code de procédure pénale, dans la mesure où M. Flos et les co-prévenus renvoyé pour des faits qui auraient été commis essentiellement en 1997-1998, alors même que M. Flos n'a été mis en examen que pour des faits de mai 2002 à mai 2004. Or, il n'y aurait pas qu'une personne ne peut pas être renvoyée dans un tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen.
Ce matin, le tribunal a ordonné une suspension d'audience de 30 minutes pour examiner cette requête. Mais les juges ont finalement décidé de suivre les demandes du procureur et de joindre l'incident au fond du dossier. Ils ont estimé qu'ils étaient valablement saisis pour la période de 2002 à 2004 uniquement et que le procès pouvait donc se tenir. Gaston Flos a été le premier des prévenus à être interrogé sur les conditions de la création du SED. Il a déclaré que son gouvernement avait décidé la création du service après les manifestations de 1995 liées à la prise des essais nucléaires. La présidente du tribunal s'est étonnée de la création de ce service, alors même qu'il existait déjà un service de documentation et 2 services de sécurité pour le pays. Gaston Flos a répliqué qu'il avait besoin d'un service rattaché directement à la présidence. Le procès est prévu sur 5 jours au tribunal correctionnel. Rappelons qu'il contient 2 volets. Le premier sur l'atteinte à la vie privée avec les filatures, notamment du journaliste de Tahiti Pacific, Alex Duprel. Le second sur le détournement de fonds publics constitué par la création de ce service le 13 mai 1997. En effet, selon les enquêteurs, le SED n'a pas été créé pour les raisons officiellement invoquées de collecte de documentation des administrations du territoire, mais bien pour constituer une cellule d'espionnage à la présidence.
En bref, un fait divers stupide s'est produit à Taras ce week-end.
Samedi soir, un peu après 20h, 4 amis marchaient le long de la route au niveau du PK6 à Taras. L'un d'entre eux, passablement alcoolisé, a décidé de jouer au toréador avec les voitures qui passaient. Il s'est alors mis en travers de la route devant une Peugeot 206 qui circulait dans la nuit, mais il n'a pas eu le temps de se retirer de la chaussée. Le conducteur n'a pas non plus réussi à éviter le jeune piéton de 24 ans qui a été éjecté à une dizaine de mètres pour atterrir directement dans la mer. Ses amis lui ont immédiatement porté secours, mais le jeune homme a été durement blessé. Il a donc dû être évacuané vers l'hôpital de Raiatea.
En bref, toujours, les négociations sont restées au point mort ce week-end à la CPS.
Le préavis de grève déposé à la Caisse de prévoyance sociale arrive à échéance ce soir, mais les syndicats et la direction ne se sont pas rencontrés ce week-end, ni ce matin d'ailleurs. Pour l'heure, les 4 centrales syndicales signataires attendent un signe d'un autre syndicaliste, c'est le président du CA de la CPS, Yves Le Grost. Les négociations devraient se tenir cet après-midi, toujours sur les 2 points principaux soulevés par les syndicats. syndicats. D'une part, le départ du directeur de la CPS Régis Chang et d'autre part, la convention collective des salariés de la CPS. Affaire à suivre donc.
Un mot d'économie à présent. Le patron du MEDEF est revenu sur la situation politique en Polynésie.
Souvenez-vous, il y a deux mois, les présidents du MEDEF et de la CGPME, Olivier Kressmann et Christophe Play, avaient adressé une lettre ouverte aux élus de l'Assemblée pour les mettre en garde contre les risques d'une nouvelle instabilité politique. Un courrier qui faisait suite aux tensions en interne au Tahuir 1. La semaine dernière, le MEDEF a tenu son assemblée générale annuelle. À cette occasion, Radio 1 a interrogé le président du mouvement en Polynésie, Olivier Kressmann, sur les suites de ce courrier. Est-il resté lettre morte? Le patron des patrons estime que non. Écoutez-le au micro de Tamara Sentis.
Je crois que ce que ça a apporté surtout, c'est une prise en considération des élus, que le monde économique et la population en général les observaient avec quand même gravité. Je pense que ça a réveillé tout le monde sur le fait qu'on ne peut plus attendre et que la situation des entreprises est absolument catastrophique. Et il n'est plus le temps à la tergiversation, il n'est plus le temps aux jeux politiques qui sont souvent plus orientés sur des problèmes de personnes et d'égo que d'intérêt général.
Et alors tu sens que maintenant les pouvoirs publics rassurent les investisseurs ?
Les investisseurs sont rassurés dans la mesure où ils voient des choses avancer. Ils ne sont pas forcément plus sur le fait de constater que les situations politiques ne sont pas encore tout à fait assainies. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui sur le sujet des sénatoriales. Mais bon, ça c'est de la politique. Nous ça ne nous intéresse pas. Nous ce qui nous importe aujourd'hui c'est qu'on trouve des instances stables, des instances qui travaillent. On a des sujets graves et urgents à traiter. Le jour où on se réveillera et qu'on n'aura rien fait, ça va être très douloureux. Donc il n'est plus temps d'attendre, il faut vraiment s'y mettre.
Olivier Kressmann a également évoqué la relation entre le patronat et l'actuel gouvernement, une relation assez bonne, vous allez l'entendre.
On s'entend très bien avec le gouvernement, on travaille de concert, on est écouté, on est entendu. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau par rapport aux années précédentes. On n'est pas d'accord sur tout, forcément, mais au moins il y a intérêt d'être concerté et de veiller à faire les choses dans le temps. Donc chacun de son côté fait des efforts et on espère que maintenant les choses vont se mettre en œuvre rapidement. En tout cas, on travaille de concert, on travaille de confiance. On travaille dans l'échange et dans la même perspective et urgence de traitement. Et je dirais même qu'au-delà du gouvernement, je rajouterais là-dedans l'État, puisque les travaux qui ont été conduits sur le contrat de projet ont été également réalisés avec le concours du MEDEF.
Et à 12h08, on marque une petite pause dans ce journal. On revient pour parler culture et sport. Retour au journal Antoine, et on reprend avec la première projection de l'Envers du Monde qui aura lieu ce soir à l'ICEP.
Nous en parlions la semaine dernière avec François-Paul Pont, co-organisateur de l'événement. L'Envers du Monde, c'est ce cycle de conférences gratuites organisées à l'ICEP et qui commence dès ce soir à 18h. Jusqu'à vendredi, 5 documentaires seront projetés avant l'organisation d'un débat entre plusieurs professionnels et le public, le tout animé par un journaliste. Ce soir, l'Envers du Monde vous propose un documentaire réalisé par Corinne Tison et Laurent Liechtenstein, intitulé « Internet, la pollution cachée ». 52 minutes d'une plongée dans les coulisses les moins connues de nos vies numériques à travers les centres de stockage de données, les fameux data centers. Un data center, il en existe d'ailleurs un en Polynésie. Il se trouve à Papeno. Si vous voulez en savoir plus, c'est à 18h dans l'amphithéâtre de l'école du quartier de la Mission.
Et on reste sur ce terrain culturel, mais avec du théâtre. C'est Pepsi qui débarque au Petit Théâtre.
Alain Devieigre, metteur en scène bien connu du Fait Noir, revient jeudi soir avec une nouvelle pièce. Il s'agit de Pepsi, donc, du théâtre de boulevard dans la plus pure tradition du genre. Alain Devieigre est un habitué du théâtre de boulevard, populaire, évidemment comique. Pepsi, c'est l'histoire de la relation naissante entre deux personnes qui n'ont a priori rien en commun, un architecte bourgeois et une jeune fille charmeuse des soirées parisiennes. La pièce a été écrite par Pierrette Bruno. Dans les années 50, cet artiste a été la partenaire de Bourville au théâtre, à l'opérette et en chanson. Ils ont d'ailleurs enregistré plusieurs duos ensemble. Alain Devieigre veut adapter sur les scènes du Petit Théâtre cette esprit de légèreté. Il parle de sa pièce comme d'une œuvre gaie et amusante qui repose particulièrement sur le jeu des comédiens. Écoutez-le interrogé la semaine dernière par Samia Stambouli.
Cette pièce est une pièce dynamique, gaie, amusante, mais très intéressante parce qu'elle laisse une très grande part au jeu des comédiens. Si vous voulez, il y a plus de travail de texte, d'interprétation, que de travail de déplacement, de porte qui claque et des choses comme ça. Des coups de théâtre, bon, il y en a peut-être un ou deux, mais on ne peut pas les dévoiler parce qu'il faut que le public soit surpris. Bon, on peut la définir comme une pièce de boulevard. Vous savez, l'auteur, c'est Pierrette Bruno, excellente comédienne et qui a fait beaucoup de théâtre. théâtre. Elle a joué notamment avec son partenaire, privilégié, qui était Bourvil. Et ils ont joué ensemble une pièce très amusante aussi qui s'appelle La Bonne Planque, que j'avais eu la chance de voir, et où ils formaient tous les deux un couple exceptionnel. Et elle s'entendait très bien avec Bourvil.
Pourquoi vous avez décidé d'adapter cette pièce ?
Parce qu'elle est très intéressante pour les comédiens, pour le jeu, et parce que je pense qu'elle peut plaire au public. Elle sort un peu c'est une pièce de boulevard, mais qui est un peu particulière, qui laisse une grande part aux comédiens.
F6 sera joué du 26 mars au 5 avril au Petit Théâtre de la Maison de la Culture avec Aurélie Vigouroux, Nicolas Arnoux, Benoît Barbier, Hervé Lebourse et Lilou. Les places sont à 2000 francs pour la première de jeudi soir et 3000 francs pour les représentations suivantes. Les billets sont en vente dans les carrefours Aroé et Punaoya, à Radio Infareuté évidemment, et sur notre billetterie en ligne radio1.pf.
Et midi 12, on termine avec le sport.
Premier sur le sport avec sportaiti.com.
Et avant de retrouver Poulet Nena de sportaiti.com, on commence par la une de l'actualité sportive de ce week-end avec le sacre de Tefana en football. Samedi soir à Pater, devant 500 spectateurs déchaînés, le club de Faha a ravi la coupe de la Ligue 1 Vini au tenant du titre Pirée. Après avoir échoué de peu l'année dernière, l'équipe de Tefana est arrivée cette année à décrocher le titre de champion. Il faut dire que les hommes de Sébastien Labaya ont largement dominé la saison. Grâce à leur victoire au match aller, il leur suffisait d'un match nul en finale pour décrocher le titre. C'est chose faite, les jaunes et verts ont encaissé 2 buts en début de rencontre, mais ils ont ensuite réussi à recoller au score pour finir sur un match nul à 2 buts partout. Pour l'entraîneur de Faha, Sébastien Labayen, cette victoire est selon lui le fruit d'un travail de longue haleine. On l'écoute au micro de Tamara Sentis.
Sébastien, juste un mot, alors à quoi vous devez cette victoire ?
Essentiellement aux qualités des joueurs, ce qu'ils ont réussi à mettre en place. La victoire, c'est eux qui sont allés la chercher. Je suis satisfait de leur parcours, oui, et surtout la manière, parce que ce qu'on a proposé, c'est quelque chose qui, je pense, n'a jamais été fait, avec un jeu où on peut repartir très près de notre but. Donc ça demande de la lucidité et surtout beaucoup de courage. C'est un jeu qu'on a mis en place depuis le début de l'année. Ils y ont adhéré, ils ont mis leur touche personnelle et c'est tout à leur honneur. Si on regarde les moyennes d'âge de chaque équipe, on voit que notre équipe est en devenir puisqu'on est très jeune. Et s'ils adhèrent et qu'ils poursuivent dans leur voie, je pense que l'histoire risque de se répéter souvent.
Mais ce week-end, il n'y avait pas que du foot. On fait donc le tour de l'actualité sportive avec Poulet Nena et on commence par du basket.
Cher auditeur Yaorana, on attaque notre journal des sports par du basket et la finale des playoffs qui oppose Aurey à Excelsior. Avant le second match qui s'est déroulé vendredi, Excelsior menait 1-0. Le deuxième match a également tourné en faveur d'Excelsior qui l'emporte sur le score de 75-71. Ce samedi, à la salle Tamahana, pour la troisième rencontre, Excelsior avait l'opportunité de remporter le trophée et Aurey de revenir au score. Et c'est ce que Aurey a fait en remportant la rencontre après prolongation sur le score de 81-76. Rendez-vous ce soir à Fatawa à partir de 19h30 pour la quatrième confrontation. À noter chez les femmes la victoire d'Aurey qui remporte le trophée aux dépens de JT.
Et on poursuit ce tour d'horizon sportif du week-end avec cette fois-ci du VAR.
Ce samedi, il y avait également du VAR avec la 14e édition de la AMEO VAR Race qui a rassemblé 42 équipages venus des 5 archipels, mais aussi de Hawaï et de Nouvelle-Zélande. Nos jeunes Eito en herbe n'ont pas démérité puisqu'ils ont bravé les éléments dans des conditions parfois très délicates avec du courant et du fort vent de face. Chez les Piriteinas, le mano à mano entre le collège de Haroué et de Popo a tourné en faveur des locaux. C'est donc le collège de Popo qui l'emporte devant le collège de Haroué et le collège de Taone. Chez les Teinas, le collège de Bora Bora s'est largement imposé devant lycée Taone et le collège de Pomaré emmené par Gordon Barf. On passe au Taurea avec un duel à chaque étape entre le lycée de Taone et le lycée Gauguin. Mais les élèves de Pirée se sont imposés devant le lycée Gauguin et le LP de Mahina. On peut féliciter l'équipe de Thibaut Catio pour l'organisation ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré pour faire de cette journée une belle réussite. On est arrivé au terme de notre journal. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.